Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Dans ce numéro, nous irons d'abord au Sénégal pour faire le point sur les nouvelles mesures prises par les autorités afin de stabiliser les comptes publics. Cela après des rapports qui ont constaté que la dette du pays avoisinait les 100% du PIB. Nous serons à Dakar dans quelques instants. Notre destination éco nous mène cette semaine en Angola. L'Angola, une économie importante et stratégique en Afrique centrale et australe. Notre analyste Idriss Lindje nous en parlera en fin d'émission. Johanna Monté est notre invitée de la semaine. Elle est l'organisatrice de la conférence francophone Africa Business Summit. Avec elle, nous parlerons des opportunités de business qui s'offrent entre les économies francophones et anglophones du continent. Et dans le Zoom Express, nous allons vous plonger au cœur des rythmes des tchak-tchak, ces motos qui assurent la livraison express de produits au Sénégal, un business qui a permis de créer des dizaines de milliers d'emplois et qui ambitionne désormais de se mettre au vert. Nous en parlerons avec son patron. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Direction le Sénégal pour faire le point sur les nouvelles mesures prises par les autorités afin de stabiliser les comptes publics. Cela est, comme je vous le disais à l'instant, après des rapports qui ont constaté que la dette du pays avoisine les 100% du PIB. Entre mesures de rationalisation et d'assainissement des finances publiques, les annonces s'enchaînent à Dakar où nous retrouvons notre correspondante Marema Diop qui donne la parole à des économistes.
Le Sénégal fait face à une situation économique préoccupante. L'évaluation provient d'un rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques. Une analyse qui remet en question la prévision d'une forte croissance en 2025.
Si on reste sur les bons chiffres, on devrait être sur des croissances qui, tout au plus, est sur 4% en fin d'année. Tout au plus. On peut avoir des croissances qui peuvent être entre 1,5% voire 3%. Tout au plus 4%. Et exceptionnellement, peut-être avec le pétrole. Voilà. Mais quand tu se projetais sur des croissances à 5%, à 6%, 8%, c'est impensable sur les trois prochaines années.
Pour le gouvernement, la situation pourrait être redressée. L'État compte sur la rationalisation des dépenses, la suppression des subventions sur l'énergie, entre autres.
Par exemple, pour le niveau d'endettement, moi, je suis pour qu'on essaie de faire travailler sur un reprofilage de la dette à l'échelle macroéconomique. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler, de faire en sorte que de prolonger ou en tout cas de faire en sorte de ne pas de moins rembourser sur cette période critique 2025-2027. Et ça, c'est le reprofilage de la dette. Aller également vers ce qu'on appelle la réduction du train de vie de l'État, comme il l'a préconisé, mais pas toucher au salaire qui est sacré. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas toucher au salaire, mais il y a des niches de gaspillage de recettes, mais également il y a les exonérations qui sont autour de 4500 milliards qui peuvent constituer une manne. Il faut que ces exonérations-là soient drastiquement réduites. Sous un autre plan également, il faut encadrer le pouvoir d'achat du consommateur, parce que toutes ces augmentations-là se retourneront sur le consommateur.
L'autre aspect qu'il faut, à mon sens, prendre comme mesure, c'est essayer de réduire notre dépendance extérieure en encourageant la production locale.
Selon ces experts, le cadrage macroéconomique du Sénégal peut être remis en cause après la publication du rapport de la Cour des comptes, d'où l'importance de mesures correctives pour redresser la situation économique du pays.
Merci à vous, Mariama Diop, notre correspondant à Dakar.
Zoom Express.
Et nous restons au Sénégal pour vous plonger au cœur des tchak-tchak, ces motos qui assurent la livraison express de produits. C'est un business qui a permis de créer des dizaines de milliers d'emplois dans le pays et qui ambitionne désormais de se mettre au vert. Nous en parlons avec le patron de tchak-tchak. Il s'agit de Cheikh Ahmed Tidiane Samb qui est avec nous depuis Dakar. Bonjour à vous, Cheikh Ahmed Tidiane Samb, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Omar, merci pour cette invitation.
Avec nous également, Moustapha El Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique. Bonjour à vous, Moustapha El Bouri.
Bonjour.
Alors, je rappelle que le cabinet Best Afrique est spécialisé dans les investissements en Afrique et surtout qui met en liaison les diasporas africaines qui ambitionnent d'investir en Afrique. Alors, je vais commencer avec Cheikh Ahmed Tidiane Samb. Alors, Cheikh Ahmed Tidiane Samb, parlez-nous davantage de tchak-tchak.
Bon, tchak-tchak est une société de last mile. Nous faisons dans la livraison express. Nous sommes à Dakar depuis 2013 et aujourd'hui, nous comptons pas moins de 150 000 livreurs qui sont indépendants et qui livrent sur toute l'étendue du territoire national sénégalais.
Ça, c'est important. Alors, que livriez-vous justement? Est-ce un produit juste, un service juste de livraison, mais est-ce que vous avez des produits spécifiques?
Nous livrons un peu de tout. Hein. Nous livrons de la nourriture, nous livrons des colis, nous livrons des courriers, nous livrons même des moutons. Nous livrons du tout. Tout ce qui est légal et qui est livrable, nous le faisons.
Donc, en un mot, c'est un peu similaire à ces multinationales que nous connaissons comme Glovo, par exemple. Alors, qu'en est-il de la création d'emplois?
Oui, il faut savoir que tchak-tchak, depuis 2013, s'active dans la création d'emplois, plus précisément de la création d'emplois pour jeunes. On a eu cette chance, une fois lancé, que tchak-tchak a été adopté par toute cette jeunesse sénégalaise. Tchak-tchak reste aujourd'hui le premier pourvoyeur d'emplois informels au Sénégal. Voilà, j'ai bien précisé informel parce que actuellement l'État du Sénégal, avec l'aide du Premier ministre, est en train de restructurer ce secteur. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on aura minimum entre 100 000 et 150 000 emplois formels qui vont être créés à travers ce secteur.
150 000 emplois formels, c'est très important. Ouais. Alors, Moustapha El Bouri, vous observez cette dynamique d'explosion des services de livraison. Alors, parlez-nous-en, Moustapha El Bouri.
Oui, c'est vrai que le secteur de livraison, c'est vrai qu'en Afrique, il faut reconnaître que ça reste encore très minime, même si c'est en hausse. On représente à peine 2% du total mondial des services de livraison. L'activité reste limitée sur le plan aussi géographique. Je pense que Ahmed, oui, a développé la première vraiment société de livraison d'une taille assez conséquente au Sénégal. Aujourd'hui, à part le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et maintenant le Sénégal, les autres pays ne sont pas tellement développés. Hein. Maintenant, je pense que l'innovation, comme a dit Ahmed, elle est là aussi pour répondre aux besoins locaux. Moi, j'ai vu une étude l'année dernière de McKinsey qui disait que le commerce électronique représenterait près de 10% des ventes totales de toutes les économies africaines aujourd'hui, qui sont portées, si je puis dire, par un développement technologique. Et il y a aussi une émergence d'une classe moyenne. Donc, je pense que toute cette expansion de l'e-commerce va également, sur notre continent, va drainer les services de livraison. Et on va voir de nouveaux acteurs, comme on a vu tchak-tchak, qui vont apparaître. Bon, maintenant, il faut aussi reconnaître que les acteurs de ce secteur, ils doivent faire face à des défis un peu structurels qui entravent leur évolution. Hein. Le marché africain, Omar, il a des spécificités structurelles que n'ont pas les autres marchés, comme le marché d'Europe ou le marché des États-Unis. Hein. Et je pense que ces spécificités vont obliger un peu les acteurs, comme tchak-tchak d'ailleurs, à une réflexion qui est assez poussée. Et il faut s'adapter aussi à la culture locale. Et le secteur est en pleine croissance. Hein.
Alors, Cheikh Ahmed Tidiane Samb, je rappelle que vous êtes le CEO donc, de tchak-tchak, ce service de livraison express au Sénégal. Bon, on sait qu'il y a une forte offensive des grands acteurs globaux. J'en citais certains tout à l'heure. Comment faites-vous face à cette concurrence-là? Et plus généralement, quels acteurs sont présents dans le marché sénégalais?
Oui, aujourd'hui, on a une concurrence informelle qui nous essouffle un peu parce qu'ils arrivent à récupérer une grosse part de marché. Mmh. Mais actuellement, de mèche avec le nouveau régime, avec l'État actuel, on est en train de voir comment formaliser tous ces acteurs informels. On a eu une réunion avec le ministère de l'économie numérique et l'ARTP, qui est l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste. Mmh. Et actuellement, ils sont en train de faire un travail remarquable pour que tous ces acteurs informels puissent se formaliser. Car c'est dans cette formalisation que l'économie de l'État peut s'y retrouver. Mmh. On a à côté de cela des acteurs qui sont, bon, on va dire des opérateurs, vu qu'ils sont formels, qui s'activent aussi dans la livraison et qui développent pas mal de solutions innovantes. Et je pense que c'est cette concurrence qui nous pousse à innover, qui nous pousse à apporter des solutions nouvelles et qui nous motive.
Alors, justement, parlez-nous du poids de ce business des services de livraison express au Sénégal. Est-ce qu'on arrive à en quantifier le poids, mais plutôt, dans votre cas, qu'est-ce que cela rapporte en termes de business? Vous êtes actif depuis 2013.
Depuis 2013, exactement. Mm-hmm. C'est un business qui est en pleine expansion au Sénégal. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un besoin qui était présent et nous faisons face à une nouvelle situation dans le monde entier. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps coûte cher et les déplacements se font de plus en plus difficiles, sont de plus en plus difficiles. Et le fait d'utiliser aujourd'hui un tchak-tchak, par exemple, au Sénégal, fait gagner en temps et en heure. Ce business aujourd'hui représente à peu près, on va dire, 2 250 000 livraisons par jour au Sénégal. Nous faisons des livraisons à 2 000 francs qui équivaut à peu près à 3 euros, 30 dirhams, on va dire. Mm-hmm. Et nous avons une belle part de marché que nous souhaiterons croître d'ici les années à venir via nos livraisons par drone et via nos livraisons par moto électrique.
Mmh, livraison donc par drone et moto électrique. Alors, je termine avec Moustapha El Bouri. On pense bien évidemment à une certaine pollution que tout cela peut-être est créateur. Comment aujourd'hui allier ces activités avec une sorte de développement durable, respectueux de l'environnement?
Oui, Omar, ben, comme là vient justement, c'est un très bon point qui vient de préciser Ahmed. C'est vrai qu'il faut se tourner vers l'électrique, je pense, c'est ce qu'il est en train de mettre en place. Même si c'est vrai, il y a un petit frein, voilà, après il faut tout ce qui est charge aujourd'hui sur les petits vélos moteurs, bon, ça prend un peu de temps, on n'a pas autant de bandes que l'on a à l'étranger. Et je pense qu'il faut être précurseur dans ce domaine et aller de l'avant et mettre en place. L'un des autres freins que je voulais aussi mentionner au développement du service de livraison, c'est aussi le recouvrement et le paiement. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, sur notre continent, tout se fait, voilà, 95% se fait en cash. Maintenant, l'innovation dans le secteur des moyens de paiement, je pense qu'il offre également des opportunités d'évolution. Mmh. Pour le secteur de la livraison, et c'est le cas notamment du mobile money. Hein. Je pense que ce moyen de paiement représente une réelle opportunité et est vraiment un grand gain de valeur pour le secteur de la livraison. Mmh. D'ailleurs, Ahmed, il ne l'a pas mentionné, mais moi je le sais parce qu'on en a discuté, il est en train de mettre en place sa propre plateforme de paiement de mobile money. Et je pense que ça va vraiment booster le service de la livraison en parallèle avec toute la mise en place de son service de nouveaux cyclomoteurs électriques. Voilà.
Mmh, c'est
un grand défi,
oui.
Mais c'est un grand challenge et je pense que voilà, on y est et il va y arriver.
Et le potentiel est aussi là, on aura l'occasion certainement d'en reparler. Merci à vous deux, cher Ahmed Tidiane Samb, le patron donc de Tchak Tchak, un service de livraison express au Sénégal, et à Moustapha El Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique. Ce fut un plaisir de vous avoir dans Coémergence.
Le plaisir est partagé, Omar. À très bientôt.
Merci.
Coémergence, l'invité.
Johanna Monté est notre invitée de la semaine. Elle est l'organisatrice de la conférence francophone Africa Business Summit. Avec elle, nous allons parler des opportunités de business qui s'offrent entre les économies francophones et anglophones en Afrique. Bonjour à vous, Johanna Monté, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et merci de m'avoir invité, c'est un plaisir.
Alors, récemment, vous venez d'organiser une nouvelle édition de cette conférence, donc Africa, Francophone Africa Business Summit, c'était au Nigeria. Alors, parlez-nous-en d'abord.
Alors, en fait, c'est une conférence qui veut vraiment, comme on dit, bridger le gap. Ça veut dire, en fait, créer un pont entre l'Afrique francophone et anglophone au niveau business. La vérité, c'est qu'il y a énormément de conférences que l'on voit sur le continent. Simplement, il faut que ce soit des conférences. On essaie en tout cas de venir avec un concept qui permet de créer de réels échanges pour les acteurs de l'économie réelle. Donc pas simplement pour les méga acteurs, mais vraiment pour les PME qui font quand même la majeure partie du tissu économique de nos économies, aussi bien francophones que anglophones, mais qui malheureusement ne communiquent pas assez et du coup ne sont pas en mesure d'utiliser les leviers qui s'offrent à elles en termes de d'opportunités cross-border, donc d'un pays à l'autre.
Alors, voilà. Alors, cela dit, quel est justement aujourd'hui l'état de la connexion en termes de business entre l'Afrique anglophone et francophone?
C'est une bonne question. En fait, quand vous regardez les statistiques, hein, on dit qu'à peu près, de manière générale, sur le business intra-africain, on est sur 14%. Donc, c'est-à-dire que 14% des échanges se font entre pays africains, contre 60% entre, par exemple, l'Afrique et l'Asie ou l'Afrique et l'Europe. Donc, on voit que de manière générale, on commerce très peu entre nous-mêmes. On préfère aller beaucoup plus loin et donc ça crée des problèmes d'effet de gaz à effet de serre, etc. Mais de manière plus générale, on manque des opportunités de commercer entre nous, en réalité.
Alors, et comment évolue ce commerce-là? Est-ce que sur la base aujourd'hui du développement technologique, des exigences frontalières entre pays voisins, pensez-vous que les choses sont en croissance ou plutôt stagne?
En fait, effectivement, vous mettez le doigt sur un point très sensible, qui est de dire que le commerce entre nos pays n'est pas forcément facilité. Donc, il y a forcément une raison. Et c'est sans doute la raison principale qui fait que, ou en tout cas l'une des raisons qui fait que, justement, il est parfois plus simple d'envoyer quelque chose en Chine que de l'envoyer dans un pays de la région. Vous voyez? Donc, on a vraiment ces problèmes infrastructurels très importants. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'était l'un des points de la conférence. On avait vraiment une discussion sur les infrastructures régionales qui sont finalement peu existantes. Et de dire comment est-ce qu'on fait pour justement commercer plus entre nous si nous n'avons pas d'infrastructures pour commercer. Alors évidemment, le problème c'est que même de manière nationale, il y a déjà parfois des problèmes d'infrastructures sérieux. Donc après, c'est vrai que c'est difficile pour les États d'envisager des infrastructures régionales qui pourtant sont indispensables pour justement motiver plus de commerce régional.
Alors on parle souvent de cette différence qui existe entre ces deux Afriques, il n'y a pas que ces deux Afriques-là, bien évidemment, mais entre le monde africain francophone et anglophone. Quelles sont justement ces différences-là?
En fait, c'est un point très intéressant. En fait, il y a des différences culturelles qui sont certaines, mais dans le bon sens. Ça veut dire que, et vraiment pour transacter beaucoup, donc moi je suis avocate d'affaires avant tout, hein. Donc on fait énormément de transactions entre l'Afrique francophone et anglophone, et on voit bien qu'il y a vraiment des opportunités d'apprendre justement, parce qu'il y a le pragmatisme anglophone qui est bien connu, et qui se voit vraiment dès la première transaction. Vous voyez à quel point ils vont droit au but, les transactions vont beaucoup plus rapidement, les discussions sont beaucoup plus rapides et droit au but. Et d'ailleurs même la documentation d'investissement est beaucoup plus simple. En pays francophone, donc de tradition civil law, de droit civil, c'est un peu plus long, voyez. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de raison de choisir des systèmes juridiques qui sont pesants. En réalité, les parties d'un contrat ont le choix quant à la juridiction à laquelle ils veulent soumettre leur contrat. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a des instruments pour faciliter le commerce entre nous et on peut s'inspirer des pays, des autres pays, notamment Afrique anglophone. Et par contre, c'est vrai que les Africains francophones sont connus pour leur technicité, par exemple. Donc, du coup, les anglophones aiment bien, prendre quelques francophones dans leurs équipes. Vous verrez au Nigeria qu'il y a beaucoup de, par exemple, Camerounais, Ivoiriens, etc., qui sont des postes à des postes très importants parce que, justement, les anglophones apprécient la technicité des francophones. Vous voyez qu'il y a donc il y a vraiment des points de convergence importants dont nous pourrions nous inspirer
plus.
Alors, en termes, vous parlez donc de ces différences d'approche, mais qu'en est-il de la législation? On sait qu'il y a l'OADA qui regroupe pas mal de pays francophones, par exemple, en Afrique. Qu'en est-il de, comment je vais le dire, de l'uniformité du business dans le monde anglophone?
Alors, c'est vrai que nous, on a quand même un grand avantage qui est d'avoir l'OADA, qui fait que même si le système n'est pas toujours le plus évident à comprendre, au moins c'est un système pour 17 pays. Et ça, c'est quand même très intéressant. Maintenant, dans les pays anglophones, il faut savoir qu'eux, même s'ils n'ont pas un système pour un nombre de pays et qu'ils ont véritablement un système par pays, ça reste malgré tout une inspiration très common law, donc du droit anglais. Ça veut dire que d'un pays à l'autre, quand même, on sait qu'on va avoir des ressemblances sérieuses parce qu'ils ont la même inspiration. Donc on va dire que ça paraît plus effrayant parce que chaque pays vient avec son système juridique, mais finalement, c'est des systèmes qui se ressemblent dans les pays anglophones. Vous voyez un peu. Maintenant, c'est vrai que du pays anglophone à francophone, on a vraiment deux systèmes différents. Donc ça, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de différences, notamment en termes d'approche, parce qu'évidemment, c'est des héritages bien différents. Mais ça se dompte assez facilement, sachant qu'en réalité, en Afrique, il n'y a pas énormément de systèmes juridiques. Hein. C'est finalement civil law, common law. Et dans quelques pays, vous avez du droit romain, mais c'est pas, y a pas 36 milliards d'options non plus. Donc, ce n'est pas si difficile que ça à comprendre, on va dire.
En tout cas, c'est intéressant à noter. Merci à vous, Johanna Monte. Je rappelle que vous êtes avocate, mais surtout organisatrice de la conférence francophone Africa Business Summit qui vient de se tenir récemment au Nigeria. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Destination Éco.
Notre Destination Éco nous mène cette semaine en Angola. L'Angola, une économie importante et stratégique en Afrique centrale et australe. Notre analyste Idriss Lingier, directeur de rédaction de Media Mania, nous présente l'économie angolaise, son potentiel, ses défis, mais aussi les perspectives qui s'y annoncent. Écoutons Idriss Lingier.
Alors, l'Angola est une excellente économie. C'est un pays pétrolier, essentiellement. Et selon les dernières estimations du FMI, normalement, on devrait assister à une croissance de 3%. Les autorités sont en train de travailler à diversifier l'économie pour ne plus totalement dépendre du pétrole. Et ces réformes-là sont en cours. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de dire que un des segments, c'est de développer le secteur énergétique. Le secteur énergétique en termes de production d'électricité. D'ailleurs, dans ce sens, je pense qu'un contrat a été signé avec une entreprise marocaine, Somagec, qui va développer une production d'électricité avec éventuellement une perspective hein, dans les prochaines années à les vendre du côté de la RDC ou de la Zambie, qui sont des pays miniers. Donc, voilà, l'Angola reste une économie assez intéressante. On ne la connaît que pour le pétrole, mais on oublie que c'est un pays qui a aussi d'importantes terres agricoles. C'est un pays qui a besoin de construire des logements. C'est un pays où la consommation agroalimentaire a encore besoin qu'il y ait davantage d'offres au niveau local. Donc, globalement, c'est ça. Alors, selon le FMI, contrairement à ce qu'on pensait, la croissance pourrait atteindre 3% cette année 2025. L'inflation devrait continuer de reculer et le pays a mis des réformes qui lui permettent de générer suffisamment d'espace budgétaire afin de soutenir les dépenses de développement.
Merci à vous, Idriss Lingier. Je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions de Media Mania, qui édite entre autres l'agence panafricaine Ecofin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.